Le grand entretien avec ce matin Marc Janson, botaniste et agronome au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, auteur également avec Charlotte Fauve du livre Botaniste. Bonjour Marc Janson.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Vous dirigez donc l'herbier au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le premier au monde, plus de 8 millions de spécimens. Est-ce qu'on peut dire, Marc Janson, qu'on a tout répertorié, on a tout découvert ?
Oh non, on a peut-être tendance aujourd'hui, un peu trop d'ailleurs, à croire que l'inconnu se cache au milieu des étoiles, sur Mars, sur la Lune. Il y a toutes ces politiques spatiales qui renaissent en quelque sorte, en tout cas qui retrouvent un nouveau souffle. Mais n'oublions pas que le premier inconnu, c'est celui qui nous entoure. On estime qu'on a décrit peut-être 10, peut-être 15% du monde vivant qui nous entoure. Donc l'immense continent inconnu, il n'est pas dans les étoiles, mais il est bel et bien autour de nous.
Et ça veut dire qu'on fait comment ? On relance des expéditions comme dans les temps anciens ?
On peut relancer des expéditions, pas forcément dans les temps anciens, hein. Il n'y a pas forcément que dans le passé que se trouve la solution pour aujourd'hui, mais la méthode, le geste de collecte, d'analyse, de description, de prise de notes pour décrire ce vivant et décrire son évolution est toujours d'actualité, mais il faudrait peut-être aussi former des gens qui ont les compétences pour faire ça. C'est cette science un peu ancienne qu'on appelle la taxonomie, qui a un peu disparu des radars et qui pourtant est absolument essentielle, qui était essentielle auparavant, mais qui est peut-être aujourd'hui, dans cette crise de la biodiversité que l'on connaît, encore plus essentiel à la compréhension du milieu qui nous entoure.
Encore plus, vraiment.
Oui, parce que ce...
On ne fait pas assez appel à vous, en fait, botaniste, spécialiste.
Alors, botaniste, mais aussi entomologiste, ornithologue, je veux dire, c'est vraiment le vivant dans son ensemble que j'aborde là au micro avec vous pour cette question. C'est pas forcément qu'on fait pas assez appel à nous, c'est que premièrement, on n'est pas très nombreux. Ce sont pas forcément des disciplines ou des filières dans lesquelles on a vraiment un investissement massif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'inconnu, cet inconnu dont on vient de parler, c'est-à-dire que l'essentiel des espèces ne sont pas encore répertoriées. Alors, peut-être pas chez les oiseaux, peut-être pas chez les plantes à fleurs, c'est beaucoup plus au niveau des champignons, des bactéries, des fonds marins que tout ce mystère demeure. Mais c'est aussi que ce monde, il est en train de changer à toute allure, ce monde, il est en train de se déplacer, les espèces sont soumises à quantité de paramètres qui s'accélèrent aujourd'hui, on le sait tous avec les changements globaux, et que donc il y a à la fois une tâche de poursuivre la description du vivant, et à cette tâche s'associe la compréhension des mouvements, des changements qui affectent ce vivant. Et on ne peut pas préserver la biodiversité, c'est sur toutes les lèvres des politiques, des spécialistes aujourd'hui, mais on ne peut pas préserver ou conserver ou protéger quelque chose que l'on est incapable de nommer. Donc il y a vraiment cette crise un peu aiguë, si vous voulez, où à cette espèce d'inconnu qu'il faut décrire à toute allure parce qu'il est en train de disparaître, s'associe aussi le suivi précis des conséquences de ces changements globaux sur les populations animales et végétales qui nous entourent.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marc Janson ? Les botanistes, il y a quelques siècles, ils partaient, ils ramenaient des graines d'Europe, enfin d'Asie vers l'Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les changements, les plantes ont migré d'elles-mêmes ?
Alors les plantes, elles peuvent migrer, bien sûr, puisqu'en fonction des climats, elles vont évidemment pouvoir se déplacer, mais parfois, les changements sont un petit peu trop rapides pour qu'elles puissent se déplacer. Hein. Un arbre, il peut vivre plusieurs siècles, plusieurs millénaires, voire plus encore. Donc, ça prend parfois beaucoup plus de temps pour que les migrations puissent se faire. Parfois, la migration, elle est possible et parfois, elle est impossible parce qu'il peut y avoir des barrières physiques. Donc, il y a, en fonction des cas et en fonction des espèces, la réponse va être différente. Et c'est bien pour ça que c'est un travail colossal, parce que j'ai envie de vous dire que quasiment espèce par espèce, la réaction va être différente et il va falloir la caractériser.
Alors, je parlais de migrer. Est-ce qu'elles ont muté aussi ces plantes ?
Alors, les plantes, elles mutent. Hein. Le vivant, par définition, est une espèce de changement perpétuel. Par contre, là, on parle de pas de temps de quelques décennies ou de quelques siècles. C'est pas forcément des pas de temps qui sont suffisants pour voir de nouvelles espèces apparaître très rapidement et des changements fondamentaux au niveau génétique. Là, on parle plutôt de mouvements de population, si vous voulez, c'est-à-dire des plantes qui sont soumises à des conditions climatiques particulières, une température particulière, un type de précipitation, un volume de précipitation annuel. Si ces modifications environnementales sont trop importantes, elle ne va plus pouvoir se développer à l'endroit où elle se trouve. Et donc, éventuellement, la migration par les graines va lui permettre de trouver un nouveau territoire qui sera plus propice à son développement que le territoire qu'elle occupe actuellement.
Ça veut dire, si on fait schématiquement, un cactus qu'on trouve en Afrique, on va le retrouver en Finlande ?
Non, pas forcément, parce que pour que le cactus parte de l'Afrique à la Finlande, il faudrait que le changement climatique soit beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui.
Je schématise.
Dans quelques décennies, ce sera peut-être possible. On est sur des changements qui peuvent parfois être des changements avec des unités, enfin, des superficies assez importantes, mais on est quand même à l'échelle de quelques kilomètres, quelques centaines de mètres. C'est des changements qui sont lents, et c'est ça le problème, c'est que le changement est très rapide, c'est ce qui caractérise ce changement, c'est pas la première fois que la Terre connaît des changements climatiques, celui-ci est très rapide, très accéléré, et la réaction du vivant par rapport à un changement aussi accéléré pose question et parfois pose problème.
Et la faute à qui? On va dire l'homme, tout simplement?
Oui, alors après, moi je suis pas du tout climatologue, donc pas s'il faut vraiment rentrer dans... Enfin, je suis pas la bonne personne pour rentrer dans ce détail-là, mais bien sûr que l'homme a une responsabilité, parce que l'homme a... par son activité, par sa démographie, par ses besoins, va beaucoup modifier les environnements. Donc il y a, disons, le changement climatique qui est causé par l'homme, et après il y a toutes les modifications qui sont apportées aux écosystèmes, la déforestation, l'imperméabilisation des sols. Tout ça, ça va aussi évidemment porter préjudice à l'existence et à la survie de populations végétales et animales qui sont installées.
Mais j'y viens justement, Marc Janson, dans votre livre Botaniste, au tout début du livre, vous dites que rares sont les endroits, notamment en France, mais aussi dans le monde, qui ont été laissés tels quels. Le sauvage, vous dites, a disparu.
Oui, Paul Valéry nous disait, c'est l'heure du monde fini, c'est la fin de la, le début du monde fini, c'est-à-dire qu'on a compris en gros la finitude du monde, c'est la Lune, la première fois qu'on a vu la Terre depuis la Lune, où on s'est rendu compte qu'effectivement c'était une boule assez isolée et assez fragile. Bah, de la même façon, aujourd'hui et dans un avenir très proche, c'est sûr que les grands espaces sauvages, hein, Romain Gary, les racines du ciel, ces espèces d'immensité sauvage, elles sont complètement en train de disparaître et elles auront disparu. On est de plus en plus nombreux, on a des besoins énergétiques, etc., de plus en plus importants.
Mais qu'est-ce qu'elles apportent, ces lieux, ces espaces sauvages? Qu'est-ce qu'ils apportent?
Ils apportent une sorte d'équilibre. On sait tous que les forêts jouent un rôle important dans la régulation du climat, la régulation du cycle de l'eau. La fertilité des sols est plutôt liée à des écosystèmes qui sont diversifiés, qui fonctionnent. C'est comme des zones tampons, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre sur la planète qui va se créer. Et puis surtout, ça laisse libre cours à certaines espèces, à leur reproduction. Elles ont besoin de territoires, elles ont besoin d'une superficie donnée. Et plus on va grignoter ces espaces-là, plus on va fragiliser, plus on va mettre en danger une existence autonome de ces espèces végétales et animales.
Alors, vous parlez de votre travail, c'est sur les espèces végétales, c'est sur les plantes. On sait ce qu'apportent les plantes, mais qu'est-ce qu'elles apportent véritablement dans la connaissance pour nous de répertorier toutes ces plantes, de les découvrir encore? Qu'est-ce qu'on en y apprend encore aujourd'hui?
Alors, il y a beaucoup de choses. Le monde des plantes est en quelque sorte en pleine ébullition en ce moment. Vous savez, il y a eu ce moment où on a découvert les grands singes et où on s'est rendu compte, en commençant à étudier leur culture, c'est Jane Goodall, Birute Galdikas, toutes ces femmes, Diane Fossey bien sûr, qui en posant un regard neuf en quelque sorte sur les grands singes, se sont rendu compte que la limite entre l'homme et l'animal était beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait. C'est une comparaison peut-être un petit peu rapide, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le domaine végétal, c'est un petit peu le même genre de phénomène qui est en train de se passer. Donc on est en train de se rendre compte qu'il y a tous ces phénomènes de communication entre les plantes, qu'elles ont vraiment une existence propre. Certains parlent d'intelligence végétale. Ça, c'est un aspect, si vous voulez, qui va caractériser le végétal en tant que tel. Après, continuer à décrire le vivant, à décrire les espèces, ben c'est simplement que ces milieux fonctionnent bien. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous prenez une forêt de bouleaux, de hêtres, elle a son fonctionnement propre, et le fonctionnement de ces écosystèmes, il est lié essentiellement à la diversité des espèces qui s'y trouvent. Et donc, si on veut comprendre comment ces écosystèmes fonctionnent, et donc comment notre existence est conditionnée et expliquée par un fonctionnement global au niveau de la planète, entre le climat, la fertilité des sols, enfin tout ce qui se passe sur notre planète, il faut obligatoirement passer par la description des espèces. Et gardons aussi à l'esprit que nommer une espèce, c'est déjà lui donner une existence. Parce qu'une espèce qui n'est pas répertoriée, qui n'est pas nommée, par définition, on ne la connaît pas parce qu'elle n'a pas de nom. Et donc c'est à partir de ce processus qui est vraiment essentiel de description d'une espèce et de ce nom que l'on va lui donner, que l'on va pouvoir poser ensuite des études, je sais pas moi, de chimie, qui vont permettre de découvrir peut-être des propriétés médicinales, ou des études génétiques qui vont permettre de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est vraiment le temps zéro de tout ce que l'on va pouvoir développer comme type de recherche sur ces différentes espèces par la suite.
Aujourd'hui, Marc Janson, elles se trouvent où, les nouvelles espèces? Où est-ce qu'on va faire les recherches?
Alors c'est essentiellement sous les tropiques. Hein. 75 à 80% de la biodiversité de notre globe n'est pas dans les latitudes tempérées comme les nôtres, dans ce studio parisien aujourd'hui. C'est essentiellement dans cette grande ceinture intertropicale qu'on l'on va découvrir. Alors on peut les découvrir bien sûr au sol, mais n'oubliez pas non plus Francis Allais, hein, ce botaniste français, grand botaniste, grand penseur aussi des arbres et de l'existence végétale, de la condition végétale, qui a développé ce qu'on appelle le radeau des cimes, hein, cette structure pneumatique que l'on va poser sur les canopées, donc en haut à 50-60 mètres de haut, parfois plus, des grandes forêts tropicales. Et c'est là, dans ces milieux-là aussi, que l'on trouve énormément d'espèces nouvelles, de plantes bien sûr, mais aussi d'insectes, de crustacés, etc.
Est-ce que les plantes, alors au fil de l'histoire, vous parlez beaucoup de l'histoire de ces botanistes à travers les siècles, est-ce que les plantes ont changé, mais est-ce qu'elles sont plus résistantes aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont... Voilà.
Plus résistante à quel genre de
choses ? Je sais pas, on est dans une période difficile pour la planète, il est pas nouveau, mais ma question est vraiment, est-ce que ces plantes-là, est-ce que les plantes d'hier sont les mêmes que celles d'aujourd'hui ?
Les plantes d'hier sont les mêmes que les plantes d'aujourd'hui à l'échelle des premières collectes végétales et de ces premiers spécimens d'herbiers qui ont été collectés, c'est-à-dire à peu près au début du XVIe siècle. Avec vraiment une accélération au niveau du 18e. On a un recul de quelques siècles qui n'est pas suffisant pour documenter l'apparition de nouvelles espèces en quantité, etc. Donc oui, les plantes sont les mêmes, mais le végétal est extrêmement résilient. C'est-à-dire qu'effectivement, de par sa nature, de par sa structuration génétique, il y a quelques particularités du monde végétal qui font qu'en général, c'est un monde qui est assez résilient. C'est une des raisons d'être optimiste. C'est que dès que l'on est capable de mettre en défense un petit morceau du monde et de limiter au maximum l'impact humain sur ce petit morceau du monde, ben on voit des réactions végétales comme animales qui sont très fortes, qui souvent nous surprennent. Et j'ai envie de dire que c'est une des raisons qui font que je pense qu'il y a encore des raisons d'espérer. Alors, faut pas être béat, bien sûr, les dangers existent, c'est assez dramatique ce à quoi on assiste, mais il reste encore des raisons d'espérer, heureusement.
Avant de passer aux questions des auditeurs, Marc Janson, vous êtes vraiment d'un naturel optimiste, c'est-à-dire vous dites quoi qu'il arrive, la nature reprendra le dessus.
Non, je ne dis pas ça. Je dis que la crise que l'on vit actuellement, elle menace l'homme. La vie sur Terre se poursuivra, même si on disparaît parce qu'on n'est pas capable de réfléchir suffisamment ou de mettre en action ce que tous les scientifiques du monde nous disent de faire. C'est-à-dire, on vit quand même une époque assez extraordinaire. On analyse les problèmes, on sait quels sont les problèmes. Pour beaucoup de ces problèmes, l'essentiel de ces problèmes, on a des solutions. C'est simplement qu'on n'est pas capable de les mettre en place. Non, ce que je veux dire, c'est que la force de la vie est telle que souvent j'entends l'homme va faire disparaître la vie sur Terre. C'est absolument faux. La vie sur Terre ne disparaîtra pas à cause de l'homme. C'est l'homme qui va disparaître.
Marc Janson, botaniste, patron de l'herbier au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. On va passer aux questions des auditeurs. Il y en a avec Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Marc Janson vous écoute.
Allô?
Oui, bonjour, oui. Fabienne.
Allô?
Oui.
Vous m'entendez?
On vous entend très bien, Fabienne.
Oui, je voulais non affirmer ma conviction que la première erreur, ça a été l'invention de l'agriculture, l'aberration de planter sur une surface donnée des monocultures qui font que on n'est pas les seuls gourmands de la planète, donc après ça attire toutes les bestioles possibles et imaginables. Et du coup, en fait, on se rend pas compte que les conséquences sont bien pires que le mal qu'on a voulu éviter, la peine qu'on a voulu éviter de prendre pour simplement cueillir, chasser pour ceux qui veulent.
On va laisser répondre Marc Janson, Fabienne.
Alors, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que fut un temps où j'ai été formé en tant qu'agronome, mais j'ai envie de dire qu'encore une fois, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Et toutes les agricultures n'ont pas les mêmes conséquences sur la biodiversité et sur l'écologie en général. Donc, encore une fois, on sait que l'agriculture industrielle, que les monocultures, comme dit madame, elle a raison, sont absolument incompatibles avec la conservation d'une biodiversité importante. Mais heureusement, il n'y a pas que ce modèle-là. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est bien sûr que l'agriculture pose problème, l'agriculture actuelle, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de nous nourrir et de cultiver les plantes ou d'élever les animaux. Il y a beaucoup d'alternatives qui sont connues aujourd'hui et qui sont beaucoup plus compatibles avec des milieux vivants, riches et une biodiversité importante.
Marc Janson, il y a des questions aussi sur l'application France Inter et je vais les mêler toutes les deux. Il y a Simon et Christina. Simon pose cette question, on en parlait de la ville, la volonté aujourd'hui des architectes de revégétaliser la ville, le besoin de ça. Et Christine pose aussi la question de la déforestation de la forêt et de l'impact, la forêt amazonienne et de l'impact sur la biodiversité.
Alors peut-être que je commence par l'Amazonie. Alors on dit toujours la déforestation de la forêt amazonienne. C'est vrai que le Brésil a élu un nouveau président qui n'est pas très compatible, là encore, avec la conservation de la forêt amazonienne. Mais la déforestation, c'est partout. La déforestation, c'est en France. La déforestation, c'est en Europe. Alors la forêt française, effectivement, croît, mais on coupe encore des forêts. Et évidemment, elles ont un rôle à jouer par rapport à un rôle productif, même si on peut poser beaucoup de questions là encore. Mais la déforestation, là où elle pose problème, c'est pas seulement en Amazonie, c'est dans tous les grands bassins tropicaux, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, l'essentiel de la biodiversité se trouve là. Donc c'est le bassin du Congo, c'est l'Indonésie, les grandes forêts du sud-est asiatique. Et effectivement, c'est un problème parce que ça reste les derniers milieux primaires où on a, en quelque sorte, grâce à ces forêts qui n'ont jamais ou très peu été perturbées, hein, le mythe de la forêt totalement vierge est beaucoup questionné aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même des vrais réservoirs absolument gigantesques de biodiversité. Comme ce sont des écosystèmes qui sont très divers, ils ont aussi un rôle écologique à jouer, c'est-à-dire qu'on connaisse ce rôle de fixation du carbone, de régulation du cycle de l'eau, etc. Et qu'effectivement, c'est assez dramatique, mais vous savez que ça fait des dizaines d'années, des siècles même. Pierre Poivre, au XVIIIe siècle, lui-même, à partir de ses observations sur les îles de l'océan Indien, tirait la sonnette d'alarme en disant il faut arrêter de couper dans des proportions aussi gigantesques que les forêts. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a pu assister à une stabilisation de la déforestation en Amazonie sous les gouvernements brésiliens précédents. Là, effectivement, ça semble repartir de plus belle. Je ne peux que déplorer la situation. Je suis évidemment pas le seul à le faire.
Est-ce que le monde des botanistes, Marc Janson, est entendu sur cette question? Parce que on parle beaucoup des climatologues, on parle beaucoup des scientifiques, mais est-ce que sur ces domaines-là, les botanistes, vous, est-ce que on vous consulte?
Oui, on est consulté. Alors, le Muséum National d'Histoire Naturelle est une institution de référence au niveau national et au niveau international. Donc, toutes ces études qui sont faites sur la chute dramatique des populations d'insectes ou des populations d'oiseaux, évidemment, ce sont des scientifiques du Muséum qui les produisent. Donc, l'avis, il est connu. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on vit une période assez extraordinaire où on connaît les problèmes, on les analyse, on a les solutions, mais elles ne sont pas mises en pratique. Donc, on est, si vous voulez, devant ce constat amer, scientifique, rigoureux.
Consulté, mais pas plus, en fait, finalement.
Exactement. Mais comme beaucoup d'autres, les climatologues, de la même façon, nous proposent des scénarios, ont une méthodologie scientifique rigoureuse, annoncent des effets que l'on constate, et pourtant, au niveau des solutions ou des choses qu'ils préconisent, ne sont pas suivies.
Pour vous, par exemple, pour revenir à la question de Simon sur la revégétalisation des villes, ça fait partie des solutions?
Oui, ça fait partie des solutions, mais ça dépend des solutions à quel problème. C'est-à-dire, effectivement, coup de chaleur, canicule, les plantes sont là pour temporiser tout ça. Elles sont là pour rendre la vie plus agréable, parce qu'elles vont produire, évidemment, par l'évaporation de l'eau, par les feuilles, des zones où la température va être inférieure à une zone qui n'est pas végétalisée. Elles ont aussi un rôle, et on en parle dans le livre avec Charlotte Fauve, je crois que c'est important, un rôle esthétique. C'est quand même des spectacles qui, pour celui qui est un minimum sensible, apportent une sorte d'apaisement.
Et en même temps, vous dites, on regarde pas les plantes.
Et voilà, c'est pour ça que je précise pour celui qui y est sensible. Hélas, on n'y est peut-être pas assez. Donc, il y a plusieurs vertus aux plantes. On peut, les villes et les jardins. Aujourd'hui, évidemment, les jardins ont un rôle différent pour préserver la biodiversité. Donc, il y a plusieurs actions possibles. Mais ça n'est pas en mettant des zones vertes dans les villes qu'on va résoudre globalement le problème de la chute de la biodiversité. Ça y contribue, mais ça n'est pas suffisant.
Mais quand Anne Hidalgo, la maire de Paris, propose une forêt à l'intérieur de Paris, une forêt urbaine, ça a du sens?
Pour moi qui suis scientifique, une forêt aura du mal dans toute sa composante à se développer véritablement sur 70 cm de terre. C'est-à-dire qu'on va avoir un aspect esthétique, un aspect paysager, la biologie va quand même plus loin. Mais tout ça, c'est quand même des choses qu'il ne faut pas regarder avec mépris. Je voudrais pas que les gens entendent ça dans ma voix aujourd'hui. On a aussi, encore une fois, beaucoup de surprises, des réactions rapides. Et en tout cas, au-delà du politique, etc., je pense que faire rentrer le végétal dans la ville sous certaines conditions, je pense pas que le végétal dans la ville en soi soit la solution à tout et soit véritablement adapté. Mais en tout cas, on sait, il y a des études qui ont été faites, que dès que l'on... C'est plutôt la gestion de ces espaces verts, si vous voulez. C'est-à-dire que dès qu'on laisse, en quelque sorte, des zones sans pesticides, etc., on a un retour de la biodiversité qui est manifeste.
On retourne au standard avec François. Bonjour François.
Bonjour.
Marc Janson vous écoute.
Bonjour François.
Oui, bonjour Marc. Je voulais vous demander ce je voudrais que vous précisiez pour vous ce qu'est l'impact des pesticides et des OGM sur la biodiversité et que vous nous disiez ce que vous pensez de l'agroécologie.
Alors, les trois questions sont liées. Alors encore une fois, je suis pas forcément le meilleur interlocuteur. Bon, effectivement. Les pesticides, si on parle des herbicides, il est évident que par rapport à la biodiversité végétale, l'effet il est radical, hein, puisque comme vous le savez, les herbicides ont été inventés pour permettre la monoculture. Hein, sans monoculture, pas d'herbicides. Là, je parle de l'agriculture industrielle. Après, il y a les herbicides qu'on utilise dans les jardins. La question est peut-être un petit peu différente, même si les effets sont les mêmes. La question des OGM, ben encore une fois, elle se pose dans un contexte d'un type d'agriculture donné, qui est une agriculture extrêmement basé sur des monocultures, sur une production industrielle, et effectivement, encore une fois, par rapport à des impératifs de conservation de la biodiversité, c'est pas forcément la meilleure des solutions, on va dire ça comme ça. Et la dernière question, j'ai oublié, l'agroécologie. Oui, l'agroécologie, c'est une solution, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Les premières analyses, il y a eu quantité de choses faites avec l'INRA.
L'agroécologie, si on rappelle, c'est remettre de la verdure à l'intérieur de l'agriculture, c'est ça?
Alors, si je devais donner une définition peut-être plus large, c'est imiter la nature, en quelque sorte. C'est-à-dire, quand vous avez une forêt qui est à l'équilibre et qui existe par elle-même, personne ne vient l'engraisser, personne ne vient mettre des pesticides ou des insecticides. C'est un système qui fonctionne par lui-même. Et donc, c'est... Comment, à partir de l'observation écologique, comment est-ce qu'à partir de la compréhension de ces écosystèmes sauvages qui fonctionnent par eux-mêmes sans intervention de l'homme, on peut en quelque sorte transposer ces grands phénomènes dans les zones de culture où l'homme va produire sa nourriture et pour avoir justement se baser sur des phénomènes ou des systèmes qui sont naturels et ne pas avoir à utiliser des systèmes, disons, artificiels ou intensifs. Donc ça peut être de la permaculture, ça peut être une quantité de domaines différents. Ça, oui, effectivement, c'est une solution. Après, pour que la planète soit à l'équilibre, il faudra quand même des massifs forestiers, il faudra quand même... Et donc, il est absolument impensable que toute la surface de la planète soit transformée en terrain agricole. Et c'est toute la question. Pression de la démographie, la population humaine explose, et on sait qu'elle va encore exploser dans les décennies qui viennent. Comment faire en sorte que, malgré l'explosion de la démographie, on limite au maximum la déforestation pour générer de nouvelles terres et qui permettent de nourrir cette population en augmentation, c'est vraiment un défi du 21e siècle.
J'ai une dernière question, Marc Janson. Dans votre livre, vous parlez des plantes, vous parlez aussi des odeurs. Et pour vous, quelle odeur a le monde aujourd'hui ?
Quelle odeur a le monde aujourd'hui ? Alors c'est intéressant, je parlais l'autre jour avec une jeune femme qui est née et qui me disait qu'à de la même façon que les paysages urbains sont de plus en plus en train de s'uniformiser, parce que c'est les mêmes chaînes de restauration ou de vêtements qu'on va trouver maintenant dans à peu près toutes les villes du monde, effectivement, apparemment, il y a une odeur assez commune qui est en train de se développer. Mais ne parlons pas des villes, sortons un peu des villes et revenons vers la botanique et revenons vers les forêts. Le monde n'a pas une odeur aujourd'hui. Dès qu'on va dans la nature et dans la biodiversité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la biodiversité, c'est bien sûr la diversité des espèces, mais c'est aussi la diversité de tout ce que ces espèces vont produire, la diversité génétique, la diversité des couleurs, la diversité des odeurs, et donc en fonction du monde et de la zone du monde dans laquelle on se trouve, on va pouvoir avoir des paysages olfactifs très différents également.
Merci beaucoup Marc Janson d'avoir été l'invité du Grand Entretien. Je rappelle le titre de votre livre qui est passionnant, ça s'appelle Botaniste, il est signé avec Charlotte Fauve et c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup Marc Janson.
Merci à vous.